Bilan Stock Express.
Chronique Jeux de société.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, un Bulle en Stock Express spécial jeu de société. Oui, j'ai pas mal de choses à vous présenter parce qu'il y a eu des salons du jeu qui sont récemment passés, en particulier celui qu'on organise avec l'association dont je suis président qui s'appelle Des Bulles dans la Marne. On organise des salons de bande dessinée, mais il y a aussi des illustrateurs et des illustratrices, en l'occurrence pour le dernier salon que l'on a fait, où il y avait donc des autrices qui étaient là pour pouvoir vous dédicacer vos boîtes de jeux. Et donc, beaucoup de choses à vous présenter parce qu'on a pu découvrir beaucoup de jeux et puis que je voudrais vraiment vous les mettre en avant, certes, mais après, vous les présenter et puis en plus, savoir si vous allez pouvoir les acheter ou pas bientôt, si ça peut vous intéresser. Et par exemple, on va commencer avec Cocoons. Cocoons, c'est un jeu de Julien Griffon, de Marie Faure et de Wilfried Faure, spécialisé dans les jeux plutôt jeunesse. Et du coup, c'est illustré absolument magnifiquement par Camille Chaussy. Et c'est chez Banquise Édition. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans, même si c'est un jeu de mémoire. Alors, il y a plusieurs niveaux. Donc c'est peut-être pour ça que c'est plus facile. Mais 6 ans avec des jeunes qui ont déjà un petit peu l'habitude de jouer, parce que c'est pas si évident que ça. En tant qu'adulte, on a réussi à perdre très facilement, même au premier niveau. Mais voilà, on a vraiment des très très bonnes sensations de jeu. C'est pour une partie à peu près 20-30 minutes quand on connaît bien le jeu. Le Cocoons, c'est donc les cocons dans lesquels on va retrouver des animaux. Chaque cocon, la particularité de Cocoons, plutôt, on va commencer par là, c'est qu'on va jouer avec la boîte. Vous allez ouvrir la boîte, qui est une boîte carrée, et dedans, vous allez avoir 9 petites boîtes, de nouveau, qui a la même taille carrée aussi, avec lesquelles on va pouvoir jouer. Je m'explique. Est-ce que vous vous rappelez du jeu du taquin ? Le jeu du taquin, c'était une image qu'il fallait reconstituer. Il y avait toujours un trou dans le jeu et on pouvait déplacer les pièces afin de reconstruire le dessin. C'était pas si évident que ça. On en avait, des fois on était un petit peu déçus parce qu'on n'arrivait pas à le faire. Je sais, quand j'étais gamin, c'était un petit peu ça, un peu la frustration. Et en étant un peu plus âgé, là on commençait à s'y intéresser davantage. Mais souvent on nous le donnait quand on était tout petit, on comprenait pas trop. C'est un petit peu le jeu du taquin, mais revu et visité par donc les 3 auteurs, Julien Griffon, Wilfried et Marie Faure. Vous allez avoir donc 9 boîtes. Alors, il y en a une que l'on retire parce qu'il est dedans, on va avoir des jetons et on les retire. Et du coup, les autres boîtes, les 8 boîtes, vont donc, comme il y a un espace qui s'est créé, vont pouvoir prendre l'espace donc de celles qu'on en a enlevées. Et on va pouvoir les faire glisser comme ça. À chaque fois, il y a un espace vide et on peut faire glisser les autres boîtes afin de découvrir ce qu'il y a sous la boîte, mais aussi ce qu'il y a sur les bords de la boîte. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les 8 boîtes qui restent, ce sont les 8 cocons que l'on va utiliser. Les 8 cocons, c'est-à-dire les 8 emplacements où on doit mettre des animaux. On a 8 animaux qui sont placés, eux, sous les boîtes, sous forme de petits jetons que l'on va voir. Alors, il y a une abeille, il y a un poisson, une tortue, et ainsi de suite. Il y a un serpent. Et une fois que vous allez découvrir, par exemple, le serpent, vous allez donc faire glisser une boîte. Sous cette boîte-là, il y a le serpent. Soit vous le prenez, et si vous le prenez, vous devez le mettre dans une boîte, dans un cocon. Mais par contre, il faut le mettre dans le bon. Parce que si vous ne le prenez, si vous le mettez dans le mauvais, vous serez obligé d'inverser 2 cocons. Et donc là, ça va vous faire perdre du temps. Je vous explique après comment on va jouer avec le système de temps. Mais c'est surtout savoir dans quel cocon on va mettre les animaux. Sur un bord de la boîte, il y a donc le dessin de l'animal. Mais comme c'est sur les côtés, bah, c'est caché des fois par d'autres cocons dans la boîte. Donc, il n'y a qu'à certains moments que l'on va découvrir, ah tiens, là, en fin de compte, c'est la tortue. Mais comme après, vous allez rebouger la boîte, peut-être que vous allez oublier où est la tortue et où est le cocon, surtout où elle doit aller. Donc, il va falloir avoir un double mémoire, c'est-à-dire d'abord savoir où sont les animaux dans, sous les boîtes. Donc, ça, ce n'est pas évident. Et en plus, savoir dans quelle boîte il doit y avoir quel animal. Alors, une fois qu'on a commencé à remplir un petit peu les boîtes, il reste moins de possibilités, c'est un peu plus facile. Mais il ne faut surtout pas se tromper. Parce que comment ça se passe pour savoir si vous gagnez ou pas? Parce qu'on joue en collaboration. C'est un jeu collaboratif, j'avais oublié de vous le dire. Vous avez un nombre de pièces. Je vous avais dit, il y a une boîte qui ne sert qu'à ranger les pièces au départ. Vous avez un nombre de pièces. Vous avez, à chaque fois que vous faites un mouvement avec un des cocons pour pouvoir le bouger dans l'espace de jeu, vous mettez une pièce. Et évidemment, lorsque l'équipe n'a plus de pièces, plus de possibilité de bouger des cocons. Et oui, mais vous allez me dire, bah, c'est peut-être assez facile parce qu'on peut bouger et puis après on voit, on essaye. Oui, à part que je vous ai dit, quand vous trouvez un animal, vous dites par exemple, tiens, c'est le serpent. Je le prends, on est sûr que c'est dans ce cocon-là. Vous le mettez dedans. Et puis après, en bougeant un petit peu les boîtes, vous vous regardez. Ah bah non, en fin de compte, ce n'était pas là qu'il devait aller. Ça, c'était le dragon qui était là. Bon, alors comment on fait? Bah, il va falloir payer deux pièces cette fois-ci pour pouvoir le changer de cocon. Donc, c'est ça qui n'est pas évident. C'est que vous allez perdre des pièces si vous ne mettez pas tout de suite l'animal dans le beau cocon. C'est un petit peu abstrait à expliquer comme ça à la radio. Ce n'est pas si évident que ça. Mais vraiment, c'est un plaisir de jeu terrible parce que du coup, on se prend très vite au jeu. C'est un memory, c'est pour ça qu'on parle de 6 ans et plus. Mais c'est vrai que les jeunes ont souvent plus d'habitude de memory et puis les vieux, on commence à être un petit peu plus rouillés. Mais ça fonctionne super bien même entre adultes. Et puis après, il va y avoir en plus des niveaux de difficulté. Je m'explique. Il va y avoir par exemple un niveau très difficile où vous allez avoir... Donc, les animaux vont être cachés par des petites tuiles. Et il va falloir retourner les tuiles dans le bon ordre pour pouvoir découvrir les animaux. Donc, il y a des tuiles de 1 à 8. Et quand vous retournez une tuile, si vous retournez la 2, ben, du coup, vous ne pouvez pas l'enlever pour regarder quel est l'animal qui est dessous. Donc, il va falloir d'abord faire le 1, ensuite le 2, ensuite le 3. Et là, ben, ça rajoute évidemment des mouvements. Donc, ce qui fait, je vous rappelle, mouvement, c'est une pièce à chaque fois. Je ne sais plus exactement combien on a de pièces, mais ça doit être une quinzaine ou une vingtaine qui sont donc vraiment très, très légers. 25 jetons. Donc, c'est très, très léger et très rapide à utiliser. Il ne faut pas se tromper. Et donc, vous allez avoir comme ça quatre niveaux où on va pouvoir rajouter. Il y a des glyphes à un moment donné qu'il va falloir enlever, donc des tuiles que vous rajoutez par-dessus aussi les animaux. Il va falloir trouver les paires pour pouvoir les enlever ou alors les enlever dans un ordre précis. Donc je vous ai dit aussi le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui est le niveau le plus difficile. Donc vous pouvez, si vous avez réussi plusieurs fois le premier niveau, sans trop... En gros, on ne met pas de tuiles dans le premier niveau. Enfin, en tout cas, moi, je les mets pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Les animaux... On les retourne et on essaie de se rappeler où ils sont. Par contre, lorsque vous arrivez sur les niveaux supérieurs, il va falloir mettre des tuiles et ces tuiles-là, va falloir les enlever au fur et à mesure. Vous pouvez pas déverrouiller l'emplacement de l'animal si vous n'avez pas fait soit un ordre précis, soit trouver l'ordre dans lequel vous devez les mettre. C'est subtil et très très intelligemment fait. C'est super beau en plus. C'est vraiment super beau parce que les animaux sont magnifiques. Il y a un côté un petit peu doré, un petit peu précieux dans les cocons, même si ce n'est que de l'impression. Mais vraiment, la boîte est sublime, donc ça donne envie. Et vraiment, c'est un petit cocon. C'est vraiment quelque chose d'esthétiquement très, très beau, ce qui fait qu'on a envie de le sortir assez facilement. Et puis surtout, quand vous jouez, vous avez quand même une sensation de jeu où on essaye de se souvenir, mais aussi on bouge. Il y a une manipulation qui se fait et qui est vraiment très agréable. Alors quand on joue à deux, on va mettre la boîte de biais, comme ça on voit deux côtés. On va voir un côté gauche et un côté droit des autres boîtes, des petits cocons. On ne voit pas les autres, mais c'est notre partenaire qui les voit. Et quand on joue à 3 ou 4, on va tourner donc dans un sens plus horizontal. Et là, on va voir chacun un côté. Donc en plus, les informations, il va falloir les donner aux autres et que les autres s'en souviennent. Mais nous aussi, on doit s'en souvenir. Donc c'est, on pourrait jouer encore plus difficile où on garde les informations pour nous. Mais là, ce serait quasiment impossible. Mais en tout cas, le challenge est assez relevé. Et je peux vous assurer que même au premier niveau où tout est quasiment visible, où on arrive et puis on voit l'animal directement, bah des fois on se trompe et on arrive à perdre. Moi je sais que quand j'ai gagné les premières fois où j'ai joué, c'était vraiment à quelques pièces près, à quelques jetons près. Ça, c'était pas si évident que ça. Ça s'appelle Cocoons. C'est, je vous avais dit, chez Banquise Édition. C'est de Julien Griffon, Marie Faure et Wilfried Faure. Et c'est de Camille Chaussy qui est aux illustrations absolument magnifiques. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce jeu. Comme je vous ai dit, bah, c'est vraiment familial. Et on ne va pas y jouer non plus toute une après-midi. Mais une petite partie de temps en temps, ça nous prend une belle heure de jeu. Et on peut y revenir assez facilement parce que ce n'est pas un jeu dont on, si on a déjà fait les premiers niveaux, on arrivera, on peut en refaire autant qu'on veut parce que du coup la disposition change évidemment. Des cocons, vous changez la disposition des cocons, vous changez la disposition des animaux sous les cocons. Évidemment, vous allez pouvoir rejouer et rejouer encore. Donc Cocoons aux éditions Banquise Édition, vraiment un excellent jeu familial. Et puis on va rester avec Camille Chaussy aux illustrations dans un petit jeu qui est sorti chez Helvétique, qui a le vent en poupe depuis la sortie que Odin a gagné le Spiel des Jahres, c'est l'As d'Or à Cannes. Helvétique qui donc sort un nouveau jeu avec Antoine Boza et Théo Rivière, grand spécialiste du création de jeux, dans la création, et Camille Chaussy au dessin, comme je vous le disais. C'est chez Wilson Jeux et ça s'appelle Oh My Socks. C'est un jeu de collection de 2 à 5 joueurs à partir de 6 ans pour des parties de 15-20 minutes. C'est très drôle. Et là, c'est vraiment des jeux. Pareil, ça va être assez familial. Mais on va y rejouer assez rapidement parce que les parties s'enchaînent très très facilement. Rien de plus simple. Vous avez un tas de paires de chaussettes. D'accord ? Elles sont dépareillées au départ. C'est-à-dire qu'il va y avoir de chaque couleur. Alors, il y a des fois des chaussettes qui sont en 10 exemplaires, d'autres qui sont en 2 exemplaires. Et donc, du coup, vous savez que lorsque l'on fait une tournée de lessive de chaussettes, bah souvent, il y a des paires qui se séparent et on n'arrive plus à retrouver. On a un petit peu, moi je sais que chez moi j'ai une caisse de chaussettes uniques, seules, et puis petit à petit, ben, des fois on arrive à en refaire des paires, et puis ben, après ben, les autres ils sont partis, on ne sait pas trop où. Moi bon, en tout cas, c'est parti sur ce principe-là. Au My Socks, donc vous allez d'abord avoir un tas de paires de chaussettes. Vous, rien de plus simple pour le tour, vous prenez les deux premières cartes. Vous les regardez, vous en mettez une devant vous, ça commence votre collection de chaussettes. Et sur la deuxième carte, alors ça dépend si on joue à 2 ou à plus, on va dire qu'on joue à 3 pour l'instant. Sur la deuxième carte, vous avez aussi une autre chaussette, donc c'est vous qui choisissez celle que vous voulez, mais vous avez une flèche aussi. Donc soit une flèche qui va à gauche, soit une flèche qui va à droite. Donc si c'est à droite, bah je pose cette carte dans la collection du voisin de droite. Si c'est à gauche, dans celui de gauche. Et au joueur d'après, tout simplement. Mais vous allez me dire, bah, c'est super simple, et puis on va collectionner, et puis qu'est-ce qui se passe? Bah, le gros kiff que j'ai dans ce jeu-là, c'est que à la fin, donc vous allez commencer à mettre des chaussettes les unes sur les autres. Si c'est la même couleur, évidemment. Si c'est des couleurs différentes, vous les mettez les unes à côté des autres. Mais on va dire que, bah, par exemple, les chaussettes Lama, hop, j'en ai une, hop, j'en ai une deuxième qui arrive, je la pose, c'est super. Mais par contre, mon voisin de gauche qui vient de piocher, bah, il voit que j'en ai deux, bah, il va peut-être m'en filer une. Et là, je suis obligé de la mettre dans ma collection. Je n'ai pas le choix de la garder ou pas, c'est comme ça. Je la mets dans ma collection. Ok. Et à la fin de la partie, c'est-à-dire quand on va révéler la carte machine à laver, on arrête la partie et on va regarder ce que l'on a devant nous. Toutes les collections où les chaussettes sont en nombre impair ne valent rien. C'est-à-dire que si j'ai 7, enfin j'ai des chaussettes de valeur 7, parce que c'est le nombre en fin de compte d'exemplaires qui vont gagner, qu'il y a dedans qui vont marquer. Donc par exemple, si j'ai des chaussettes de valeur 7, j'en ai 3, j'aurai 0 points. Si j'en ai 2 ou 4, j'aurai 7 points. D'accord ? Donc en fin de compte, c'est comme ça que l'on va scorer. Et c'est ça qui est super efficace. C'est qu'au tout dernier moment, quelqu'un peut nous filer une chaussette qui va nous déparier complètement notre collection et qui va nous faire chuter pas mal. Et encore plus retors, il y a une petite chose qui est assez originale aussi. Il y a deux cartes qui sont assez originales. Bon, sans parler de la carte Joker, mais il y en a qu'une que l'on va pouvoir jouer. Mais par contre, la carte Joker, la grosse difficulté, c'est qu'on doit la jouer dès qu'on la pioche. Donc imaginez que vous ayez que deux chaussettes. Pour l'instant, vous ne savez pas trop où il va vous en manquer, mais vous êtes obligé quand même de jouer la carte Joker sur une des deux chaussettes. Ça, c'est une obligation. Après, vous avez la carte où vous allez pouvoir piquer. Donc ça, c'est si vous la jouez, il y a un petit effet. Vous allez pouvoir piquer une chaussette qui est unique dans une collection de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas le droit de lui prendre une chaussette dans une collection qui a déjà été commencée, c'est-à-dire où il y en a déjà plus de deux, enfin deux au minimum. Autrement, vous avez le droit de prendre une chaussette unique. Donc, ça va compléter votre collection. Et la troisième, et ça, c'est celle-là qui est le petit effet qui est vraiment celui qui est le plus intéressant, je trouve, c'est le cadeau. C'est-à-dire que vous allez jouer une carte devant vous. Vous allez donner une carte à votre voisin de gauche ou de droite suivant la flèche. Et puis, comme il y a un cadeau, ben vous allez prendre la première carte du paquet, face cachée, et vous allez la donner à un de vos adversaires. Et là, c'est à la fin qu'il va falloir qu'il retourne et peut-être que ça va lui enlever complètement une parité donc dans les chaussettes parce qu'il faut les mettre par paire. Et ce n'est pas le nombre de paires, c'est le nombre de chaussettes qui doit être paire. Ce n'est pas le nombre. Donc, s'il y a par exemple 5, ce n'est pas deux paires complètes et une incomplète. Non, c'est 5. Votre collection est incomplète. Donc, du coup, vous ne pouvez pas scorer. Et donc, au tout dernier moment, il y a un petit rebondissement comme ça où vous allez retourner les cartes face visible et ça va vous donner l'effet escompté, peut-être ou pas. Peut-être que ça peut lui rajouter au contraire une parité dans une collection et du coup, ça va lui rendre sa collection complètement viable alors qu'avant, elle était non scorable. Et ça, c'est vraiment fun parce qu'il y a un petit côté au tout dernier moment, ça peut encore tout complètement changer. Ça s'appelle Oh My Socks, fait par deux grands spécialistes du jeu, francophones, Antoine Boza, Théo Rivière, illustré par Camille Chaussy, simplement, parce que là, c'est des petites paires de chaussettes toutes simples, mais chaque paire a vraiment un petit effet différent. Donc, il y a le petit chat, il y a vraiment le petit lama, si je me rappelle bien, pour l'arc-en-ciel, et ainsi de suite. Ce qui fait, c'est la carte Joker, si je me rappelle bien. Enfin, il y en a plusieurs, et c'est très agréable à regarder et à voir. Après, le dessin est très simple. C'est pas ça qui va vous faire acheter obligatoirement le jeu, mais c'est l'efficacité du jeu, c'est la rejouabilité, parce qu'on a envie de continuer à jouer. Et il n'y a qu'une petite particularité à deux joueurs. On va non pas donner la carte que l'on ne garde pas à son voisin, enfin à son adversaire, mais on va la défausser. Donc du coup, là, il y a une petite différence, c'est qu'on ne complète pas la collection de son adversaire. Donc voilà, c'est juste la petite subtilité, mais autrement, on est sur le même système et ça fonctionne même à deux. De 2 à 4, ça fonctionne parfaitement. On a joué dans les trois configurations, 2, 3, 4, et les trois configurations fonctionnent. J'ai pas joué à 5, tiens. Si, j'ai joué à 5 aussi. J'ai joué à 5 et ça fonctionne aussi très bien. Mais bon, à 5, évidemment, vous n'interagissez qu'avec vos adversaires de gauche et de droite. Donc du coup, vous ne pouvez pas atteindre un adversaire qui est un peu trop loin, même deux adversaires qui sont un peu trop loin. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Si vous pouvez quand même le faire avec des cadeaux, vous pouvez quand même leur mettre des cadeaux, même si ils ne sont pas juste à côté de vous. Vous pouvez mettre des cadeaux à qui vous voulez. Ça s'appelle Oh My Socks, un petit jeu dans le format donc helvétique comme on connaît, comme Odin, entre autres. Vraiment très efficace, que j'apprécie énormément. Donc Oh My Socks, pour moi, c'est une recommandation qui en plus pas très chère, parce que c'est un petit jeu qui doit être dans les 10-15 euros. Donc c'est vraiment accessible pour tous. Un petit jeu familial, vraiment un petit cadeau de Noël qui peut vraiment faire plaisir. Oh My Socks aux éditions donc chez Helvétique et c'est distribué par Wilson Jeux en France. Mais normalement, votre ludicaire le sait. On enchaîne avec Double Seven, un jeu de Michael Schacht et dessiné, mis en enluminure par Christine Alcouf. C'est de chez Tiki Édition. C'est un jeu à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs. Et c'est une partie d'une demi-heure à peu près. Une fois qu'on a bien compris les règles, il n'y aura aucun problème. C'est dans la même collection que Lucky Numbers, entre autres, et donc du coup que je vous avais déjà présenté, Lucky Numbers. Et là, du coup, c'est un petit peu différent. On va avoir des tuiles en plastique, donc déjà de très bonne qualité. On va avoir un petit chevalet devant nous. Les tuiles représentent des animaux. Donc on va avoir des collections d'animaux à faire. À partir de deux animaux identiques, on peut les poser devant nous et on va devoir comme ça compléter des collections d'animaux. Pour gagner, il va falloir être celui qui a le plus de points. Chaque animal qui est devant vous, chaque tuile qui est devant vous, gagne donc un point, tout simplement. Très simple à compter, ça c'est vraiment plutôt agréable. Alors du coup, quelle est la particularité un peu de ce jeu ? La particularité, c'est que vous allez donc piocher des tuiles, un petit peu pour ceux qui connaissent le Rummikub, on est un peu dans le même style de tuiles, et donc vous allez voir par exemple peut-être deux renards devant vous, vous pouvez les poser. Vous les posez et puis votre tour finit. Ok, vous passez à un adversaire qui va lui mettre deux grenouilles et puis ça revient à vous. Et vous, quand vous piochez, vous allez avoir par exemple une grenouille qui arrive. Mais les grenouilles, c'est chez votre adversaire. Vous ne pouvez pas, vous, évidemment, les poser chez votre adversaire. C'est chez vous qu'il faut poser, compléter votre collection. Oui, bah alors il y a peut-être possibilité, vu que j'ai deux renards devant moi, je vais pouvoir échanger mes deux renards avec les deux grenouilles de mon adversaire. Du coup, les grenouilles se retrouvent chez moi, et là, je vais pouvoir compléter ces grenouilles. Donc comme ça, ça va me faire trois ou quatre grenouilles, suivant combien j'en avais dans la main. Et on va pouvoir comme ça échanger des familles. Donc tout le temps, on aura le même nombre de tuiles devant nous, à part qu'on va pouvoir compléter que devant nous. Mais il faut pouvoir échanger une famille contre une autre pour pouvoir récupérer éventuellement un animal que pour l'instant on n'avait pas fait. Vous voulez récupérer des papillons ? Bah, pas de souci. Par contre, votre adversaire, il a 4 papillons. Bah, il faut obligatoirement mettre une famille de 4. Il faut mettre le même nombre, donc des familles identiques, en tout cas en nombre, pour pouvoir récupérer la famille de l'autre. Et c'est tout simple. C'est tout simple. Et quand est-ce que ça finit ? Bah, ça s'appelle double 7, donc double 7. Donc ça veut dire que si vous avez une famille qui arrive à 7 animaux, vous avez déjà un jeton 7. Dès que vous avez une deuxième famille, dès qu'il y a une personne, un adversaire ou enfin un joueur a un double 7, on arrête la partie complètement. Il y a un dernier tour qui se forme. Et donc ça ne veut pas dire que celui qui finit la partie a gagné. Parce qu'ils peuvent très bien avoir deux familles de 7, ok. Il a donc arrêté la partie, mais moi j'ai peut-être plus de cartes que lui. Comme chaque carte, je vous disais, comme chaque tuile vaut un point, peut-être que j'ai davantage que lui. C'est juste une petite déduction, est-ce qu'on finit ou pas ? Et puis surtout, est-ce qu'on a la chance de pouvoir finir ? Parce que des fois, bah, il faut piocher la bonne carte. Il y a aussi un système de joker qu'on peut récupérer, un petit peu comme pareil au Rummikub, on est un petit peu dans le même style. Il y a un nombre de tuiles qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas avoir en trop sur notre chevalet. Mais en tout cas, c'est très simple. Une fois qu'on a compris, les parties s'enchaînent. Moi, j'aime beaucoup ce style de jeu qui vraiment est simple à expliquer, simple à jouer. Et en plus, comme le matériel est assez quali, en particulier pour les tuiles, alors après, peut-être les chevalets auraient pu être un tout petit peu plus épais, un tout petit peu plus qualitatif, mais en tout cas, j'en prends vraiment du plaisir à jouer. C'est un jeu familial, malheureusement que à 4. C'était un petit peu aussi le cas de Lucky Numbers, où ils ont pallié un petit peu ça avec une extension qui donnait un cinquième joueur. Là, des fois, 4, ben, c'est vrai que c'est une configuration familiale assez basique, mais de 2 à 4, ça marche. De toute façon, à 2 joueurs, ça marche très bien aussi. Les règles ne changent pas. On est exactement sur les mêmes règles. Voilà, on a vraiment quelque chose de simple, agréable à jouer, qualitatif, point de vue matériel, et puis en plus agréable à voir aussi, parce que Christine Alcoff a fait un beau boulot, comme d'habitude. Simple, mais très efficace dans cette collection-là. Donc, un jeu que moi, j'ai fait rentrer dans ma ludothèque directement quand j'y ai joué. Double Seven, donc chez Tiki Édition. C'est de Michael Schacht à la création et Christine Alcoff aux illustrations. Vraiment un petit jeu très sympa que je vous recommande grandement. Je vous parlais juste de jeux avec un côté qualitatif dans le matériel. Et là, je vais encore vous en parler d'un autre un petit peu plus ancien, mais que j'ai découvert très récemment. Ça s'appelle Aquatica. Aquatica, c'est un jeu de Alexandre Droit, dessiné magnifiquement, mis en beauté par Pauline Détraze. Et c'est un jeu FK, donc qui est encore disponible. Et qui est vraiment très bon. C'est un jeu, par contre, exclusivement à deux. À partir de 8 ans, on est un petit peu sur une domination. On va un petit peu les jeux de dames, un peu jeu d'échecs, mais un petit peu simplifié aussi. Donc, on est sous les mers et on va chacun avoir des poissons, enfin, en tout cas, des animaux marins. On va avoir 9 jetons. On va avoir 3 poissons volants, on va avoir 3 requins et on va avoir 3 pieuvres. Les pieuvres sont plus grandes que les requins qui sont plus grands que les poissons volants. Donc on va d'abord commencer chacun de notre côté sur un plateau avec des cases. On va commencer avec 9, donc un carré de 9, de 3 sur 3. Donc on va me poser aléatoirement comme on l'on veut. On peut être un peu stratégique quand on connaît un peu le jeu. On va pouvoir poser nos jetons sur notre côté. Ok. Et le but, ça va être d'amener un de nos jetons derrière la zone de notre adversaire. D'accord ? Et le premier qui réussit ça a gagné la partie, tout simplement. Alors vous allez me dire, bah, ça peut être assez simple. Oui, ça peut être assez simple. Parce que du coup, on va juste avancer d'une case chacun des poissons. Donc, comme on veut, on peut avancer en avant, en diagonale, mais ou sur les côtés, mais jamais en arrière. Par contre, on ne peut jamais reculer. Donc, à chaque fois, ça veut dire qu'on a 5 déplacements possibles lorsqu'on déplace un pion. Donc, du coup, on a la possibilité de pas mal avancer, mais bon, notre adversaire fait pareil. Donc, chacun de son tour, on va commencer à avancer nos pions. Mais, la petite subtilité, et c'est là que c'est intéressant, je vous ai dit qu'il y avait 3 sortes de pièces. Les pièces vont donc du poisson volant, qui lui a la possibilité, lorsqu'il y a un espace entre des espèces qui lui font face, de passer au-dessus, un petit peu comme une dame pourrait le faire en allant manger les pions, mais vous savez, il faut toujours laisser un espace pour pouvoir manger les adversaires. Là, on ne les mange pas, mais on passe au-dessus. Donc du coup, vous passez, vu que c'est un poisson volant, il passe au-dessus de votre adversaire ou même de vos pions à vous. Hein. Vous pouvez aussi placer stratégiquement votre pion pour qu'il puisse faire un saut et donc avancer plus vite. Donc ça, c'est déjà une stratégie avec le poisson volant. Le requin, lui, il arrive devant quelqu'un, s'il peut le déplacer, il le mange direct. Peu importe ce que ce soit, ça peut être un poisson volant, un requin ou une pieuvre, il le mange dès qu'il arrive sur la case d'un adversaire, ou aussi, il peut aussi très bien manger un partenaire. Et ça peut être avantageux pour laisser disponible une pièce, une place plutôt. peut-être qu'on est bientôt au bout, et si le requin mange, on va pouvoir peut-être y accéder plus facilement. Et la troisième, qui est encore un peu plus subtile, celle-là, je trouve, c'est la pieuvre. La pieuvre, c'est un pion en bois comme les autres. Alors déjà, oui, c'est quand je vous disais que partie qualitative, c'est que les pions sont tous en bois absolument magnifiques. Et puis en plus, bien décorés avec la petite... C'est le dessin assez minimaliste et en même temps très, très représentatif de chaque animal. La pieuvre est un peu plus grande que les autres, donc c'est une pièce ronde, mais elle est creuse à l'intérieur. Et pourquoi ? Parce qu'elle peut, vous avez compris, recouvrir une autre pièce. Que ce soit une de ces pièces, donc c'est-à-dire un requin ou un poisson volant, ou un requin ou un poisson volant de l'adversaire. Évidemment, une pieuvre ne peut pas recouvrir une autre pieuvre. Et la subtilité, quand je vous disais qu'elle est un petit peu plus, pas difficile à jouer, mais en tout cas, ça peut donner un peu plus de surprise, c'est qu'une fois que vous avez recouvert un pion, lorsque vous allez avancer votre pieuvre, vous avancez aussi le pion qui est dessous. Donc du coup, vous pouvez donc bloquer déjà l'adversaire éventuellement, ou alors faire avancer un de vos pions discrètement sous une pieuvre. Et au dernier moment, vous pouvez très bien dire « je me déplace en libérant la pièce qui était dessous ». Et là, peut-être que c'est un requin ou que c'est un poisson volant qui va permettre de gagner plus rapidement. En tout cas, vous avez peut-être, vous êtes caché pour arriver jusqu'à l'antre de votre adversaire. C'est super bien fait. C'est super bien fait parce que du coup, c'est simple. C'est très simple au départ. On se dit « oh là là, il y a plein de trucs à comprendre et tout. » Non, en fin de compte, il y a trois pouvoirs, trois poissons différents et donc trois animaux marins différents et trois pouvoirs. C'est d'une simplicité. Et par contre, la stratégie, il peut y en avoir beaucoup. Il peut y en avoir beaucoup, c'est soit on attaque à fond, soit on essaye de se défendre à fond avec nos requins qui peuvent manger tout ce qui approche. Mais à chaque tour, on est quand même obligé d'avancer. On est obligé d'avancer une pièce. On peut rester éventuellement à faire gauche-droite, mais à un moment donné, on aura toujours un adversaire devant nous qui va soit nous manger, soit nous recouvrir avec la pieuvre, soit sauter par-dessus nous. À un moment donné, voilà, ça peut être il y a la tactique de défense, la tactique d'attaque à fond, et comme je disais, la tactique peut-être un petit peu plus sournoise, où on va se cacher dessous, sous une pieuvre, et qui va nous permettre comme ça de nous insinuer vers la terre promise qui est la terre donc du coup de l'adversaire. C'est très très bien fait, c'est très beau. Comme je vous disais, déjà la boîte est belle en elle-même parce que l'illustration de Pauline Détraz de la couverture est magnifique. Il y a un requin et une pieuvre qui se font face à face et c'est super beau. C'est vraiment très très beau. Et après, comme je vous disais, le plateau est de très bonne qualité, mais ce sont les pièces en plus. Moi, je pensais que c'était du plastique. Non, c'est du bois, du vrai bois. Et c'est vraiment très agréable au toucher, très agréable à jouer. Voilà, honnêtement, on lance. Alors souvent, c'est un peu frustrant pour celui qui peut-être a un petit peu moins de stratégie ou un peu moins l'habitude de ces jeux-là, qui perd peut-être un peu plus souvent, mais qui a envie quand même d'en remettre une derrière parce qu'il se dit « Allez, non, j'ai quand même pas à perdre si facilement que ça » parce que des fois, ça va très très vite. Hein. En quelques mouvements, du coup, vous avez oublié quelque chose, vous n'avez pas vu quelque chose, que le requin était trop près et qu'il va manger tout le monde. En tout cas, il y a des stratégies qui se mettent en place. Et puis ensuite, vraiment, on est sur un plaisir de jeu où on va renouveler très rapidement les parties. Et c'est pour ça que les parties sont courtes. On est entre 5 et 10 minutes pour jouer. Et puis après, on peut en refaire. C'est vraiment un petit jeu de stratégie très simple, mais super bien fait, quoi. Il est magnifique. En tout cas, l'édition est sublime. Donc c'est un jeu qui s'appelle Aquatica, avec un non pas CA à la fin, mais KA à la fin. Aquatica. C'est de Alexandre Droit pour la création, Pauline Détraz pour les illustrations, et c'est un jeu FK que je remercie grandement de m'avoir fourni une boîte pour pouvoir faire une démonstration lors du salon de BD de Shell où on fait donc des démonstrations de jeux de société, et vraiment un jeu qui a vraiment beaucoup plu et donc qui rentre dans notre ludothèque principale de l'association Aquatica aux éditions Jeux FK. Et si nous allions maintenant faire un concours de tir à l'arc. C'est ce que je vous propose avec Kiudo, la voix de l'arc, un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, illustré par Camille Chaussy et édité aux éditions Offline Edition. C'est un jeu pour de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, pour une trentaine de minutes de jeu, sur lesquels on va vraiment, vraiment beaucoup s'amuser. Alors d'abord, première chose, c'est un roll and write. Roll and write, ça veut dire que l'on va lancer des dés et à partir de ce lancer de dés, on va pouvoir cocher des cases sur une feuille. Et c'est évidemment les cases cochées vont permettre de faire des effets qui vont là être perturber en tout cas le jeu de son adversaire ou de ses adversaires. Alors première chose, la qualité du jeu est absolument incroyable. Tout d'abord les illustrations. L'illustration de couverture de Kiudo est absolument magnifique. Camille Chaussy au pinceau est vraiment magique dans cette configuration. Vraiment là le jeu il est sublime. Ensuite vous ouvrez la boîte et vous avez déjà un petit plateau. Donc ce ne sont pas des plateaux réutilisables, ce sont des feuilles. Alors moi, je vous conseille, comme je le fais d'habitude sur mes roll and write, de plastifier quelques feuilles, comme ça, et puis mettre des petits feutres dedans, comme ça, vous pouvez jouer en utilisant toujours un peu les mêmes. Mais bon, ça c'est comme vous le voulez. Mais autrement, il y en a pas mal. Il y a quand même un petit bloc de 50 feuilles recto-verso, donc vous pouvez faire pas mal de parties quand même. Vous avez des petites cartes personnages. Donc là, on va retrouver le design de Camille Chaussy, avec chacun une petite règle précise pour, en tout cas un petit effet que chacun des personnages. Et puis, on va avoir un tapis de dés. Un tapis, parce que Offline Edition est aussi spécialisé dans la création de pistes de dés. Et donc, la piste de dés est absolument magnifique. Elle est bleue avec plein de petites icônes à l'intérieur. Et là, il y a un numéro dedans. Et ben, quand vous regardez bien, chaque piste de dés dans un Kiudo est complètement différente des autres. C'est-à-dire que Camille Chaussy a créé des petites icônes qui ont été reproduites sur les tapis. Mais comme il y en avait plusieurs, bah, suivant la configuration que vous avez, vous n'avez pas le même tapis qu'un autre, la piste de dés qu'un autre. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec un tapis de dés, une piste de dés complètement unique, avec un numéro dedans, et je trouve ça assez magique, assez génial. Et puis vous avez des dés, des superbes dés et en plastique, mais vraiment très très beaux. Et puis des petits jetons en acrylique qui sont aussi magnifiques. Tout est dans la boîte, c'est-à-dire que vous avez carrément le tapis de la piste de dés avec, et ben du coup vous n'avez plus qu'à jouer. Alors comment jouer justement à Kiudo ? Chacun va prendre une feuille. Sur cette feuille, on va retrouver une cible de flèche dans laquelle vous allez tirer en fin de compte. Et sur cette cible, vous allez avoir 5 couleurs. Vous avez du noir, du orange, du vert, du bleu et du rouge. Et dedans, vous avez donc des impacts que vous allez devoir réussir à atteindre. Sur la feuille, vous avez aussi un public qui vous regarde pour l'instant. Ils sont au nombre de 20. Il y a 20 personnes qui sont en train de regarder votre séance de tir. Et puis, vous avez des petits drapeaux dans lesquels vous pourrez éventuellement, grâce auxquels vous allez peut-être réussir à avoir des effets, donc des petits bonus. Alors, vous avez 4 dés. C'est que sur ces 4 dés, il va y avoir donc déjà les couleurs que je vous ai citées. Et puis, il va y avoir aussi une flèche qui va être dessinée sur chacun des dés. Vous lancez les dés. Donc, du coup, vous avez 3 lancés au maximum. Vous lancez donc les dés et vous faites, par exemple, une flèche et bleu. OK. Flèche bleue, ça veut dire que si vous relancez 2 fois et puis que vous faites que flèche et bleu, vous pouvez donc cocher dans votre fiche de score une case bleue. Lorsque vous allez, donc vous regarderez la cible, lorsque vous regardez la cible, vous avez 4 impacts bleus dans la zone bleue. Lorsque vous arrivez à cocher ces 4 impacts, la fois d'après, quand vous allez jouer, lorsque vous ferez de nouveau flèche et bleu, ce ne sont pas sur votre... vous ne cochez plus sur votre feuille, mais vous enlevez un spectateur aux autres joueurs. Et c'est ça qui est assez fort. C'est ça qui est assez fort, c'est qu'il va falloir que l'on remplisse au maximum notre cible le plus vite possible pour qu'ensuite, on vienne échapper, enfin, on vienne attaquer en fin de compte le public, c'est-à-dire qu'on va attirer le public de nos adversaires vers nous. Donc, c'est-à-dire que le public va petit à petit se désintéresser de nos adversaires. Mais évidemment, il faut remplir la zone d'abord de flèches pour ensuite montrer notre dextérité et puis donc aller chasser les spectateurs chez les autres. Mais évidemment, les autres font pareil. Donc, s'il y en a un qui réussit à remplir sa zone rouge, par exemple, à chaque fois qu'il va refaire une flèche rouge, ça va vous enlever trois personnages quand même. Donc, ce qui est assez fort. En bleu, c'est deux personnages, comme en vert. Et puis orange et noir, c'est un personnage qui part de votre parterre de spectateurs. Ça, c'est vraiment bien joué parce que du coup, on a une interaction qui arrive. Souvent dans les Roll and Write, le gros problème, c'est que chacun est un peu de son côté, va essayer d'avancer et faire le maximum de points. Ici, on sait que lorsque l'on va remplir une zone, ensuite, on espère avoir toujours la même zone. Souvent, on est un peu frustré dans les autres Roll and Write où j'ai déjà rempli le 2, je peux plus parce que j'en ai plus. Mais là, c'est l'inverse. C'est au contraire, je veux de nouveau retomber sur ce score, sur cette flèche bleue par exemple, pour enlever deux personnages à nos adversaires. Et c'est là qu'est la tension. Et ça joue vachement. Et ça marche super bien. Ça marche vraiment super bien. Vous avez encore des effets supplémentaires. Si par exemple, vous avez sur vos dés, vous avez trois noirs, vous cochez donc un bonus. Ce bonus vous permet de cocher deux zones différentes dans votre cible. Si vous avez quatre couleurs différentes, c'est deux couleurs. Si vous avez plusieurs couleurs différentes, vous avez la possibilité une couleur différente sur chaque dé, vous avez la possibilité de déclencher l'effet de votre personnage. Chacun en a un différent. Vous pouvez récupérer avec deux dés rouges, vous pouvez récupérer un bonus qui peut être un bonus pour n'importe quoi. Vous pouvez récupérer aussi avec deux dés verts, vous pouvez récupérer un bouclier. Donc, ce qui fait que lorsque quelqu'un arrivera au moment où il va pouvoir vous déclencher une attaque contre votre public, en tout cas, il n'attaque pas directement le public, il attire le public vers lui. Donc, du coup, vous le chasse votre public. Vous allez pouvoir utiliser ce jeton. C'est vraiment prenant et il y a une interaction. Et c'est ça qui est fort parce qu'un Roll and Write où il n'y a pas d'interaction, où on ne peut rien faire contre les autres, c'est un petit peu, à un moment donné, on reste. Alors quand je dis Roll and Write ou Flip and Write, enfin tous les systèmes où on va retourner ou lancer un dé ou retourner une carte et qu'après on va cocher dans notre coin, là, le fait qu'il y ait une interaction et qu'il y ait une possibilité d'attaque des autres, et c'est même justement ça qu'il faut faire, parce que le but, ce n'est pas obligatoirement de remplir complètement notre cible, c'est vraiment de chasser le maximum du public à son adversaire et d'avoir le maximum d'adversaires de public à la fin lorsque quelqu'un a fini. C'est absolument génial. Moi, j'ai adoré ce jeu. J'y joue très volontiers. Ça fonctionne très bien. Tout le monde comprend vite. Et puis, comme je vous dis, le fait qu'il y ait l'interaction dans un système de Roll and Write, c'est pas si courant que ça, c'est pas si fréquent que ça. Et du coup, c'est plutôt très agréable à jouer. C'est bien fait, bien réalisé, superbement bien illustré. Pardon, je ne retrouvais plus mes mots. Mais c'est vrai que Camille Chaussy a fait un travail remarquable avec les personnages, avec les héros, qui sont aussi les cartes héros, qui ont chacun leur petit bonus, qui est vraiment, qui sont super beaux. Et on a envie d'avoir notre renard, par exemple, qui est en train de tirer. On est vraiment dans l'ambiance. Et évidemment, évidemment, le contenu de la boîte est tellement sublime. J'ai été surpris quand j'ai ouvert. J'ai dit « Waouh !» tout ce qu'il y a dedans. Et puis même les jetons en acrylique qui sont les jetons bonus, bah, ce n'est pas du petit bois, enfin c'est pas du petit carton plutôt. C'est vraiment des beaux jetons en acrylique, transparents en plus, recto verso là. Et puis en plus, il y a un petit sachet en tissu pour pouvoir les glisser dedans en satin là, à moitié. Waouh, quel luxe! Quel luxe! Vraiment, on est dans un système de jeu où la boîte, l'ensemble déjà nous donne envie de jouer. Que ce soit le graphisme, que ce soit le contenu de la boîte. Et lorsque l'on est en train de jouer, bah, on s'éclate. Que demander de plus, s'il vous plaît, à Kiudo, qui est vraiment un excellent jeu que je vous recommande vivement. Il y a le booster, un petit booster qui existe en plus, qui s'appelle Pendant le Mille, c'est-à-dire 5 nouvelles cartes, où vous allez pouvoir, en plus, grâce à un lancer de dés, si vous mettez tout de la même couleur, 4 de la même couleur, vous pouvez prendre la carte Pendant le Mille. Et si cette carte se trouve chez un adversaire, on peut la voler. Autrement, c'est nous qui prenons la carte. Par exemple, si je fais 4 rouges, je prends la carte rouge. Et après donc, vos lancers de dés, vous pouvez décider de placer la totalité ou une partie des dés de cette couleur sur leur face flèche. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, lorsque vous avez fait 4 dés de la même couleur, d'un prochain coup, complètement lancer 4 flèches au lieu d'une. Ce qui est quand même très efficace parce que quand vous savez... Vous avez bloqué, par exemple, le rouge. Donc, ça fait, je vous ai dit, 4 personnages qui peuvent s'échapper de chez les voisins. Et puis, qu'en fin de compte, vous faites 3 flèches ou 4 flèches dedans, ça fait des dégâts énormes. Ça fait des dégâts énormes dans ces 3 personnages qui doivent partir. Mais si, par exemple, vous envoyez 4 flèches rouges et que vous avez fait, évidemment, bloqué votre rouge et que les autres ne les ont pas encore bloqués, parce que ça, je ne vous ai pas dit. Par contre, si quelqu'un a fermé... Donc à bloquer sa zone orange par exemple, évidemment lui peut attaquer ceux qui n'ont pas encore fermé la zone orange, mais dès que vous avez fermé votre zone orange, vous êtes safe. Donc il y a quand même ce côté-là aussi de course à essayer d'aller le plus loin possible et essayer de fermer le plus vite possible toute sa cible. Mais en tout cas on prend des dégâts en même temps et comme je vous disais, 4 flèches rouges. À 3 personnages qui partent à chaque fois, ça fait très très mal parce que quand vous avez 12 personnages qui partent d'un coup, vous n'en avez que 20, je vous rappelle, donc vous n'êtes pas sûr de gagner tout à fait. Ça s'appelle Kiudo, extension ou pas, peu importe si vous avez le booster, déjà le jeu en lui-même se suffit largement. C'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, vraiment un excellent roll and write, magnifiquement illustré par Camille Chaussy et superbement mis en boîte, dirons-nous, par Offline Edition, que je remercie grandement pour le jeu que j'ai pu tester grâce à eux. Donc ça s'appelle Kiudo, et je pense qu'il faut absolument ne pas passer à côté de ce magnifique jeu. Si vous aimez en plus les roll-and-write, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas, ça peut être un roll-and-write original que vous allez découvrir. Un jeu assez original de, on va dire, vision dans l'espace un petit peu. Ça s'appelle Recto Verso. Recto Verso est une coédition entre Super Meeple et Tiki Edition. C'est Inka Brank et Marcus Brandt qui ont donc fait le jeu. Je pense que c'est un couple et qui avait tout d'abord fait la Boca, qui était donc leur ancien jeu. Qui a été réédité sous la forme de Recto Verso et qui du coup cette fois-ci a été illustré par Camille Chaussy. C'est un jeu pour de 2 à 6 joueurs, mais c'est par équipe de 2 si on joue à 6, ou alors si on joue à 4 à 5, on va dire si on joue à un nombre impair, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer des paires à chaque fois. Parce que c'est là, il faut jouer à deux obligatoirement à chaque fois. Et on va devoir, donc, après, peut-être essayer de voir quel binôme marche le mieux, quel binôme va le plus vite. C'est peut-être ça qu'on va pouvoir changer lorsqu'on va jouer à un nombre impair. Comment ça se passe ? On va prendre une carte. Sur cette carte, il va y avoir donc des formes, des carrés, des rectangles de couleurs. Donc, on a pas mal de couleurs. Et puis, ensuite, on va avoir des pièces de bois assez grandes. Et puis, des petites aussi, des carrés et des rectangles, pareil, de couleurs. Le but du jeu, c'est que la carte va être recto et verso, comme je vous le disais. Et on va la mettre entre les deux joueurs. Les deux joueurs se font face. Il y a une boîte et puis il y a la carte qui est donc juste à côté. Et moi, par exemple, en tant que joueur, on va dire d'un côté, je vois une barre verte verticale à gauche. Ensuite, je vois un petit carré noir, un petit carré jaune, un petit carré rose les uns sur les autres à partir du noir en bas. Après, un rectangle violet et puis après, rouge, jaune, orange. C'est comme ça que je le vois verticalement à droite. Le but, c'est que on a les mêmes pièces, notre adversaire et nous, enfin notre adversaire, notre partenaire et nous. Et on va devoir les placer au bon endroit pour nous voir notre vision, d'accord ? Et que lui, qui évidemment a une autre vision que nous, le voit aussi. Donc c'est-à-dire que par exemple, une pièce en long qui est jaune, moi je vois qu'un carré jaune, il faut soit que lui la cache, soit que éventuellement lui il en a peut-être besoin en long ou en vertical ou donc il faut que lui la place, mais évidemment il faut aussi la cacher si elle n'apparaît pas dans son jeu. C'est pas évident à voir comme ça, à expliquer en tout cas à l'oral, parce que c'est vraiment un jeu de vision. On va se mettre sur notre plan, on va regarder bien et on va voir si tout correspond. Si tout correspond de notre côté, on va dire c'est bon. Moi, je vois tout. Et puis, notre partenaire va dire « Ah ouais, non mais moi, là, j'ai du rose là qui dépasse. Je ne dois pas le voir. Donc, il va falloir que je le cache d'une façon ou d'une autre. » Ou alors, il faut le mettre dans un autre sens. Peut-être que moi, je vois un petit carré, un carré rose, mais peut-être que si je le mets dans un autre sens, peut-être que je le verrai quand même, mais il sera caché. Et puis là, en plus, on va avoir des épaisseurs. C'est-à-dire qu'on peut faire 3 niveaux de briques. Donc évidemment, il y en a qui peuvent être cachés derrière pour pas qu'on les voit, parce qu'il faut utiliser à chaque fois l'ensemble des pièces de bois. C'est assez bien vu. J'ai trouvé moi ça assez simple. Peut-être que voilà, c'est cette habitude de vision, de plan avec les faces avant cachées, arrière. Gauche-droite, caché, au-dessus-dessous. Et puis surtout, voilà, les faces cachées qu'on imagine. C'est le côté un peu technique qui fait que j'ai peut-être, moi, eu cette vision assez facilement. Je ne sais pas si tout le monde a cette même vision, mais moi, je l'ai trouvé assez simple comme jeu. Mais c'est plutôt efficace, ça fonctionne plutôt pas mal. Et le but, c'est, ça va être, par exemple, d'aller le plus vite possible pour trouver votre... pour placer du coup les pièces comme elles doivent l'être. Et c'est là que je vous disais que par équipe, on va pouvoir éventuellement se challenger. C'est-à-dire qu'on va faire par exemple 3 cartes chacun. Chaque équipe va faire 3 cartes. Et chacun son tour, on va faire les cartes. Et puis à un moment donné, on va voir celle qui a pris le plus de temps pour faire ces 3 cartes. Voire même faire les mêmes, pourquoi pas. Il y a aussi possibilité de faire les mêmes sans que les autres regardent. Et puis du coup, il y a ce petit challenge à pouvoir réaliser. On est sur un jeu collaboratif lorsque l'on joue que à 2 joueurs. Mais le challenge, ça va être justement d'essayer de gagner le plus vite possible contre un petit peu les cartes que l'on va avoir. C'est plutôt sympa. J'y jouerai pas tout le temps. Mais par contre, je pense qu'avec un plus jeune, c'est à partir de 8 ans qu'il le dit. C'est vrai qu'il y a côté vision spatiale qui n'est pas si évident que ça à voir. Enfin, vision plane à la base, mais il y a quand même un espace, donc il y a quand même des pièces, donc 3D qu'il va falloir mettre en place. Mais je pense que là, ça peut être un petit challenge avec un enfant, avec à partir de 8 ans. Après, entre adultes, voilà, c'est un jeu qu'on va sortir pour montrer, c'est sympa. C'est un style de jeu qu'on ne joue pas tout le temps, mais c'est pas non plus le jeu qu'on va jouer non plus tout le temps. Donc évidemment, on peut le sortir une fois de temps en temps, on va le montrer. Mais moi, j'y jouerai pas des heures. C'est pas le jeu en me disant « Ah tiens, si je faisais un recto verso, ce serait vraiment très cool. » Ce serait davantage pour le montrer aux autres et pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Faire quelques parties, c'est un petit truc animé. Ça peut être sympa en famille, voilà, pour pouvoir passer un petit moment. Voilà, c'est un jeu que je déconseille pas, et c'est pas non plus le gros coup de cœur comme d'autres jeux peuvent l'être. Ça s'appelle donc Recto Verso, c'est édité par Super Meeple et Tiki Edition. C'est de Inca et Marcus Brandt et c'est illustré par Camille Chaussy qui a fait une illustration de couverture assez originale où il va y avoir des changements de couleurs. Il y a une sorte d'immeuble un petit peu burtonien qui part dans tous les sens, un petit peu coloré, qui voit son reflet dans l'eau qui n'est pas le même. Pas tout à fait. En tout cas, il y a des couleurs qui changent. Donc, c'est un petit peu original et changeant, dirons-nous. Ça s'appelle Recto Verso. Et à vous de vous faire votre opinion. Testez-le, ça peut quand même être sympa en famille, comme je vous disais. Et toujours dans Recto Verso, au fait, il y a eu un puzzle qui est sorti sur la couverture, justement, de Camille Chaussy. Là, c'est peut-être ça que j'achèterai encore davantage. C'est chez Art & Meeple. Et je trouve magnifique l'illustration, donc du coup peut-être que si je devais garder quelque chose autour de Recto Verso, ce serait peut-être ce puzzle de 1000 pièces qui est sorti, qui est vraiment assez impressionnant. Il faudrait peut-être que je m'y mette, tiens, ça peut être sympa. Et on va finir cette émission avec un dernier jeu, un petit jeu de lettres qui s'appelle Tilt, le pendu en plus malin. C'est de Romaric Gallonnier et de Antonin Boccara. C'est illustré par Christine Alcouf et c'est chez Actarus Éditions. C'est un petit jeu de lettres de 2 à 8 joueurs. C'est par équipe de 2 et pour les 10 ans et plus. Alors, c'est pas vraiment par équipe de 2, non, au contraire, on est même. C'est un jeu coopératif. Où on va devoir jouer au pendu, tout simplement. Alors, vous me dites, ouais, bon, c'est un peu facile. Donc, c'est-à-dire qu'on a un mot à faire deviner. Alors, quand on dit de 2 à 8, c'est parce qu'on peut faire des équipes. Et donc, il va y avoir de l'équipe qui devine, l'équipe qui fait deviner. Donc, j'ai un mot devant moi. Je vais donner le nombre, je vais mettre des cartes avec le nombre de lettres donc, qu'il y a. On va pouvoir donner, évidemment, l'indice aussi de ce que c'est, dans quel thème ça se déroule. Et là, ceux qui doivent deviner le mot vont d'abord donner une lettre. Si la lettre est dans le mot, on va mettre la lettre là où elle doit être. Comme d'habitude, ça, c'est le pendu de base. Par contre, si la lettre n'est pas dans le mot, et c'est là que c'est intéressant, par exemple, je dois faire deviner singe, et ils me disent un P. Et je dis non, il n'y a pas de P dans singe, donc du coup, le P, je vais pouvoir dire un indice commençant par cette lettre. Et c'est là que ça devient assez judicieux et plutôt retors, parce qu'en fin de compte, quand vous voulez faire deviner quelque chose, ce n'est pas contre l'adversaire, c'est essayer de le faire deviner le plus vite possible. Donc par exemple, avec P, pour faire deviner singe, je dirais peut-être primate. Et là, ils peuvent dire, ok, on pense savoir et ils vont le dire. Et si ils réussissent, on gagne une carte. S'ils ne réussissent pas, on perd la carte. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile. Donc, et on a 12 tentatives, 12 lettres pour essayer de gagner le maximum de cartes indices. Parce qu'en fin de compte, les cartes indices, ce seront le nombre de lettres que l'on pourra utiliser pour le mot le plus important, celui qui est le plus grand, qui est un peu le mot final, un peu le boss qu'il va falloir découvrir. Et ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal parce que du coup, alors là c'est quand même, il faut connaître un petit peu le vocabulaire, il faut vraiment aimer jouer un peu avec les mots, aimer trouver les choses. Mais à chaque fois, ceux avec qui j'ai joué ont trouvé ça plutôt agréable et ça fonctionne plutôt pas mal. Le petit reproche là que je pourrais faire, c'est plutôt la qualité. Alors les feutres qui sont offerts avec le jeu sont assez forts. Et du coup, s'efface très difficilement. Et ça, c'est juste un petit peu un côté technique qu'il faut un petit peu changer. Mais autrement, le jeu en lui-même, ça renouvelle vraiment le jeu qui est trop simple à mon goût du pendu, même si les plus jeunes adorent. Mais là, comme il faut à partir d'une lettre, réussir à trouver un indice pour faire deviner un autre mot. Donc on rajoute une couche à ce système de pendu. Évidemment, les mots ne sont pas si simples que ça à découvrir la plupart du temps. On a quand même des mots assez complexes, voire très longs aussi des fois. Et puis, du coup, comme dans tous les pendus, on va petit à petit utiliser des lettres pour à bon escient ou pas. Mais le fait que l'on arrive à pouvoir gagner des indices grâce aux lettres dont on ne se sert pas, en fin de compte, ça peut vraiment, vraiment apporter un petit plus. Et j'ai trouvé ça très, très agréable à jouer. Il faut que tout le monde soit à peu près dans le même mood. C'est-à-dire que s'il y en a un qui ne veut pas du tout jouer avec des mots, bon là c'est mort déjà. Mais en tout cas, quand tout le monde est à peu près dans le même mood, on peut faire quelques petites parties et ça fonctionne très bien. Donc un bon jeu de déduction de lettres et avec un petit effet. Je connais, et en fin de compte, je ne connais pas tout à fait parce qu'il y a un petit twist qui fait que l'on va changer un petit peu les règles du pendu classique. Moi j'ai trouvé ça très efficace. Simple, mais efficace. Voilà, c'est un jeu coopératif plutôt agréable, assez fun. Et je vous le recommande grandement parce que du coup, c'est un petit jeu qui ne paye pas de mine, qui n'est pas excessif. Je ne sais plus exactement à combien il est vendu. Une quinzaine d'euros, je pense. Et du coup, c'est un petit jeu de famille. Alors bon, il faut aimer les jeux de lettres. Donc moi, j'adore ça, mais beaucoup ne sont pas obligatoirement aussi friands que ça. Mais comme il faut trouver des indices avec des mots, avec des lettres plutôt simples, ça peut très bien faire tilt à certains et pas à d'autres. Et puis, des fois, c'est pas obligatoirement celui qu'on croit. Mais, comme on joue en binôme pour essayer de faire deviner les mots, on va essayer de trouver chacun un indice et puis on va garder celui qui nous paraît le plus efficace. Et puis tout le monde peut y jouer et tout le monde peut trouver des choses en tout cas. Ça s'appelle Tilt, le pendu en plus malin. Et c'est plutôt une bonne ambiance que ça met autour de la table. Donc je vous recommande ce jeu pour de 2 à 6 joueurs, mais comme c'est par équipe, de 2 à 8 joueurs, mais c'est par équipe donc, et c'est coopératif surtout. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible. C'est de Antonin Bocara et de Romaric Gallonnier. C'est illustré simplement, mais efficacement, dirons-nous, par Christine Alcouf. Et c'est chez Actarus Éditions, que je remercie pour cette boîte d'essai. Et voilà, donc ce Bulle en Stock Express spécial jeu de société est fini. Vous pouvez retrouver l'ensemble des Bulles en Stock sur radiograndparis.fr grâce à Nicolas Godin comme d'habitude. Vous pouvez aussi retrouver sur ma page Facebook Steven Bescon. Vous allez avoir les anciennes émissions et les plus récentes. Vous allez aussi pouvoir retrouver l'ensemble des jeux chroniqués là cette fois-ci. Je suis en train les albums chroniqués, mais là ce sont des jeux chroniqués. La prochaine fois, je pense que je vais peut-être revenir à une émission complète manga, BD, jeux de société, ou alors peut-être que du manga. Je vois, j'essaye, j'hésite. Beaucoup de BD, beaucoup de manga, beaucoup de jeux à vous présenter, donc du coup, et avec un peu de retard en plus, mais je vais essayer de faire le tri dans ce que j'adore et ce que j'aime moins, et puis vous allez avoir la quintessence de ce que j'ai préféré. Donc normalement, ça devrait le faire. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté. C'était Steven au micro et on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission Bulle en Stock.